VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 10 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Afrique du Sud, victoire en vue de l'ANC aux législatives de mercredi, mais avec un score en net recul.
Au Cameroun, le président Paul Biya est prêt au dialogue pour résoudre le conflit avec les séparatistes, annonce le premier ministre Joseph Diongouté en visite en zone anglophone.
Réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye. L'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, reçoit le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
Les États-Unis ont pris possession d'un cargo nord-coréen accusé d'avoir violé les sanctions internationales contre Pyongyang. Nouveau test de missiles nord-coréens.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Afrique du Sud, l'ANC arrive largement en tête des élections législatives et provinciales selon les résultats partiels. Ce scrutin faisait office de test pour le parti au pouvoir. Bien qu'il conserve une majorité, l'ancien mouvement de lutte contre l'apartheid devrait obtenir un score historiquement bas. Il n'était jamais passé sous la barre des 60% lors d'une élection nationale. De Johannesburg, la correspondance de Patricia Huon.
Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Le décompte des votes est toujours en cours. Avec un peu plus de la moitié des suffrages comptabilisés, l'ANC obtient 56% des voix. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite les dégâts. Il n'a pas essuyé non plus le revers prédit dans la province du Gauteng, qui comprend la ville de Johannesburg et la capitale Pretoria. Mais ce résultat reste un coup dur pour Cyril Ramaphosa. Le renouveau promis par le président n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat sans pour autant effectuer des percées. L'Alliance démocratique obtient un peu plus de 22% des voix, le même score qu'en 2014. Et le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, obtient 9% et s'impose comme la troisième force politique du pays. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Au Cameroun, le président Paul Biya est prêt à organiser un dialogue formel pour résoudre le conflit avec les séparatistes. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Joseph Diongouté, qui est arrivé hier à Bamenda, dans le nord-ouest, l'une des deux régions anglophones du pays. Il a précisé que pour Monsieur Biya, hormis la séparation et la sécession, toute autre chose peut être discutée. La prochaine étape du Premier ministre camerounais, Boya, le chef-lieu du Sud-Ouest, l'autre région anglophone.
Confronté à une multiplication sans précédent des attaques djihadistes, le Burkina Faso a limogé les gouverneurs des régions en proie à ces violences, une décision qui intervient après une vaste réorganisation à la tête de son armée en février dernier. Ces limogeages ont été annoncés jeudi, deux jours après la première attaque lancée par des djihadistes présumés contre Waïgouya, capitale du Nord et troisième ville du pays, située sur l'axe menant à Ouagadougou.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter ce matin à huis clos de la situation humanitaire en Libye, plus d'un mois après l'offensive militaire lancée par le maréchal Khalifa Haftar pour le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale.
Le maréchal Haftar a reçu hier le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de sa deuxième visite au Caire en moins d'un mois. Son rival, Fayez al-Sarraj, était lui en tournée européenne. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de Khalifa Haftar dans la lutte contre le terrorisme et les milices extrémistes afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye. De son côté, le maréchal Haftar, dont la dernière visite au Caire remonte au 14 avril, a dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Sa visite dans la capitale égyptienne intervient après une tournée en Europe de son rival Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA. À Rome, à Berlin, puis à Paris et Londres, M. Sarraj a cherché cette semaine le soutien des Européens contre ce qu'il appelle l'agression de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Les Occidentaux ont rappelé que la situation ne peut être militaire en Libye. Selon l'ONU, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts et plus de 55 000 déplacés depuis l'offensive des troupes de Haftar le 4 avril dernier.
En Algérie, Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, a été écrouée hier à l'issue de son audition par la justice militaire, et ce dans le cadre d'une enquête pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, visant, selon un responsable du PT, le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Le tribunal militaire de Blida a déjà placé en détention provisoire Saïd Bouteflika et les généraux Mohamed Medine dit Toufik et Atman Tartag dit Bachir, deux anciens puissants patrons des services de renseignement. Les faits qui leur sont reprochés n'ont pas été rendus publics.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont pris possession d'un cargo nord-coréen accusé d'avoir violé les sanctions internationales contre Pyongyang. Il s'agit de la première saisie de ce genre alors que la tension ne cesse de monter entre les États-Unis et la Corée du Nord au sujet du programme d'armes nucléaires de Kim Jong-un. Pyongyang a d'autre part procédé à un second test de missile en moins d'une semaine, mais les officiels américains assurent que les deux développements ne sont pas liés.
Les négociations entre les États-Unis et la Chine vont se poursuivre aujourd'hui, a annoncé hier soir en porte-parole de la Maison-Blanche. Washington et Pékin ont entamé jeudi une session cruciale de négociations pour désamorcer leur conflit commercial. Précision de Jean-Roger Bion.
L'ambassadeur Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui conduisent les négociations pour les États-Unis, ont eu un dîner de travail avec le vice-premier ministre chinois Liu Yi, au cours duquel ils ont convenu de poursuivre les discussions aujourd'hui. L'administration Trump n'a pas, en revanche, fait mention de la hausse de 10 à 25% des droits de douane supplémentaires sur 200 milliards de dollars de biens chinois qui doit théoriquement entrer en vigueur ce matin. Donald Trump avait annoncé dimanche vouloir mettre en œuvre cette augmentation, estimant que les négociations avançaient trop lentement. La Chine se dit prête à prendre des mesures de représailles immédiates. La pression sur les épaules des négociateurs est d'autant plus forte qu'il s'agit de refonder la relation commerciale entre les deux puissances mondiales.
Le porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln et quatre bombardiers dépêchés au Moyen-Orient par le Pentagone sont arrivés dans la région suite aux informations selon lesquelles l'Iran préparait une attaque contre des cibles américaines. Tout en réaffirmant être ouvert à la discussion avec l'Iran, le président américain Donald Trump a accusé hier les Iraniens de s'être montrés très menaçants pour expliquer ce déploiement. Les Européens ont, quant à eux, rejeté l'ultimatum de Téhéran sur la reprise de ses activités nucléaires, appelant l'Iran à ne pas s'engager dans une escalade sans retour face à la pression croissante des États-Unis.
Les pourparlers de paix entre responsables américains et talibans afghans se sont clos hier à Doha. Hier soir, l'attaque contre une ONG américaine à Kaboul n'a pas remis en cause les avancées dans ces négociations entamées depuis plusieurs mois. Le point avec Raissa Gironda.
Ce cycle a généralement été positif et constructif, a écrit Souhaï Chahine, porte-parole politique des talibans à Doha. L'émissaire américain Zalmay Khalilzad n'a fait aucun commentaire. Après 8 jours de discussion, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange d'une garantie que ce pays ne servira pas de refuge à des groupes terroristes. Les États-Unis souhaitent également négocier un cessez-le-feu et des pourparlers entre le gouvernement de Kaboul et les talibans, ce que refusent catégoriquement les insurgés. Le président afghan Ashraf Ghani a offert la semaine dernière un cessez-le-feu pour le Ramadan. Les insurgés ont repoussé l'offre et ont attaqué mercredi l'ONG américaine Counterpart International, faisant 9 morts et 20 blessés à Kaboul. Les talibans ont expliqué avoir ciblé cette ONG parce qu'elle encourageait la mixité homme-femme et faisait la promotion de la culture occidentale.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La musique. Minute Éco, Nanit Talani.
En RDC, le ministère des Mines a approuvé le rachat du projet de cuivre Kalongwe par la compagnie chinoise Tiantun Mining pour plus de 78 millions de dollars. La mine Kalongwe, détenue à 85% par Nzuri Copper, devrait produire sur 8 ans une moyenne annuelle de 18 657 tonnes de cuivre et 1370 tonnes de cobalt. En Angola, le président Lourenço a limogé le PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Carlos Saturnino est remplacé par Gaspar Martins, déjà au conseil d'administration. Depuis plusieurs jours, une grave pénurie d'essence paralyse le deuxième producteur de pétrole du continent. La Namibie veut mobiliser environ 40 millions de dollars en faveur des fermiers de la sécheresse. Les personnes affectées recevront une assistance alimentaire, des tanks d'eau et des facilités pour leurs activités. Les fermiers percevront des subventions et auront de l'aide pour l'organisation des récoltes. Terminons avec la firme londonienne Adevco qui s'engage à investir 3 millions de dollars dans l'agro-industrie au profit de la société sierra-léonaise Tradin Organic. Cela permettra à Tradin Organic de s'approvisionner en cacao durant les récoltes auprès de 20 000 agriculteurs. Adevco espère connecter près de 6 000 petits producteurs de cacao au marché pour des revenus globaux de 550 000 dollars en Sierra Leone.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La finale de l'Europa League opposera Arsenal à Chelsea.
Oui, avec un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un but du Français Alexandre Lacazette, Arsenal a dompté Valence 4-2 en demi-finale retour et retrouvé la finale de C3 19 ans après. En finale le 29 mai, Arsenal fera face à l'autre club londonien, Chelsea, qui a éliminé Francfort au tir au but après un score d'un but partout à l'aller comme au retour.
Balde Keita ne restera pas à l'Inter Milan.
Oui, prêté cette saison par l'AS Monaco à l'Inter Milan, l'attaquant sénégalais, auteur de 23 apparitions et 4 buts en Serie A, n'a pas convaincu les dirigeants interistes. À en croire la Gazzetta dello Sport, le club lombard ne lèvera pas l'option d'achat de 34 millions d'euros qui figure dans le contrat de Balde Keita, attendu à Monaco dans les prochaines semaines.
Luis Suarez, opéré d'un genou à un mois de la Copa América.
L'avant-centre de Barcelone, blessé au genou droit, a choisi de subir une arthroscopie au niveau du ménisque, semant le doute sur sa participation à la finale de la Coupe du Roi, ainsi qu'à la Copa América avec l'Uruguay. Luis Suarez a souffert cette saison de douleurs à répétition au niveau de cette même articulation, qui l'ont notamment privé des matchs internationaux de l'Uruguay en octobre dernier. Cette opération subie hier lance un compte à rebours pour El Pistolero en vue de la Copa América au Brésil du 14 juin au 7 juin prochain.
David Beckham condamné à 6 mois de suspension de permis.
Oui, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a été condamné à une suspension de 6 mois de son permis de conduire pour avoir utilisé son téléphone portable au volant. David Beckham avait reconnu les faits qui s'étaient produits en novembre dernier et ont été dénoncés par un témoin au cours de sa comparution au mois de mars. En janvier, il avait été poursuivi pour excès de vitesse après avoir dépassé 90 km/h dans une zone limitée à 65 km/h à l'ouest de Londres. Là aussi, il avait reconnu les fait, mais avait évité une condamnation grâce à une erreur de procédure. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats des demi-finales en play-off la nuit dernière.
En conférence Est, les Philadelphia Sixers ont battu les Toronto Raptors par un score de 112 à 101. Les deux équipes sont maintenant à égalité, 3 victoires partout. Celle qui gagnera le prochain match remportera la série. En conférence Ouest, les Portland Trail Blazers ont battu les Denver Nuggets par un score de 119 à 108. Là aussi, les deux équipes sont à égalité. Et celle qui remportera la victoire la prochaine fois, eh bien, remportera la série.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, l'Observatoire congolais des droits de l'homme a dénoncé dans son rapport annuel sur les droits de l'homme publié jeudi à Brazzaville les mauvaises conditions des prisonniers dont nombreux meurent en détention. Selon cette ONG, les prisonniers politiques dont le général Jean-Marie Michel Mokoko n'ont plus accès aux visites, surtout celles de leurs avocats. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'OCDH a principalement dénoncé les mauvaises conditions de détention dans les prisons congolaises. La vétusté des structures et le manque d'une bonne et régulière alimentation sont la cause des décès dans ces prisons, d'après le rapport annuel de l'ONG. Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif de l'OCDH, a lui-même trouvé les mots pour décrire cette situation.
Nous avons connu une dégradation et même voir le durcissement des conditions de détention à partir de 2015 avec le changement de la Constitution qui a entraîné une campagne d'arrestation arbitraire et systématique des adversaires. Et nos prisons ont été peuplées. Et aujourd'hui, le problème, la surpopulation carcérale n'arrive pas à trouver des réponses qui conviennent. Nous avons enregistré une trentaine de décès dans la période 2007-2018. Et si je vous donne le chiffre le plus récent, c'est celui de la prison de Wesso, où nous avons enregistré 9 décès. Voir des hommes mourir de faim en prison peut être assimilé à de la torture. Donc c'est une illustration parfaite des mauvaises conditions dans nos prisons.
Les enquêtes réalisées par l'OCDH sont compilées dans ce rapport de 105 pages intitulé « La terreur et la répression permanente » et couvre la période 2017-2018. Pour Ndila Kende, la situation est globalement chaotique.
Alors la situation, elle est préoccupante, chaotique, il y a une dégradation spectaculaire de la situation des droits humains. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. Le rapport sera adressé aux autorités et nous invitons le gouvernement congolais à considérer ce rapport non pas comme une invective mais plutôt comme notre contribution pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays.
L'ancien ministre Alain Akouala, qui a assisté à la présentation de ce rapport, estime qu'il faut considérer cette publication comme une contribution à la construction de la démocratie.
Le rapport, c'est vrai, il a un titre assez accrocheur. Mais vous savez, la construction d'un État démocratique est un processus de longue haleine. Il y a une chose que l'OCDH a noté et a remarqué, c'est que notre pays s'est doté d'un certain nombre d'instruments juridiques, mais c'est la traduction justement dans les faits ou dans la pratique, les conséquences, si vous voulez, de l'adoption de ces instruments juridiques qui tardent. Et ça, même les grands pays, les plus grands pays démocratiques, sont quand même épinglés. C'est un rapport, j'allais dire, utile.
L'OCDH est l'une des rares ONG locales qui présente régulièrement son rapport sur la situation des droits de l'homme, Arsène Séverin. Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans le nord du Nigeria, l'émirat de Kano est divisé en 5 par les autorités locales. Cette décision réduit les pouvoirs de l'émir actuel, Mohamedou Sanusi II, l'une des figures traditionnelles les plus influentes du pays. Sanusi, ancien gouverneur de la Banque centrale, ne dispose en théorie d'aucun pouvoir politique, mais est partisan de réformes sociales. Ses critiques contre la polygamie et les familles qui ont beaucoup d'enfants sans les moyens de les élever ont provoqué la colère des musulmans conservateurs. Idriss Fall a joint à Kano notre confrère Adam Aboubakar Guarzo.
Avant les élections, le gouverneur et le maire de Kano avaient eu des problèmes. Selon le gouverneur, le maire de Kano ne soutient pas le parti politique au pouvoir. Donc, l'émir de Kano a démenti qu'il est neutre. Selon lui, il veut que le peuple choisisse le choix. Depuis ce temps, ça ne va pas, il y avait des pourparlers. Donc, quand le gouverneur maintenant a réussi à avoir mandat du peuple maintenant, lui-même, il a voulu faire une revanche, c'est de créer 4 émirats dans l'état de Kano pour pouvoir cacher l'émir de Kano, Mohamed Sunusi.
Donc, il a créé 5 émirats. Quel est l'effet de cette décision sur l'émirat de Kano?
Non, mais tu sais, il a créé 4 fois 5. Il a créé 4 émirats comme celui de Kano qui existait déjà. Il a créé Gaya, Renault, Karaye et Bichi. Donc, il a créé 4 émirats plus celui de Kano qui existait. Donc, c'est une manière de cacher le gouverneur Sunusi, Mohamed Lamido, pour pouvoir avoir aussi d'autres émirés, comme l'émiré de Kano, c'est le seul émiré qui couvre les 44 arrondissements de Kano. Maintenant, l'émiré de Kano, Mohamed Sunusi, va s'occuper de 10 arrondissements de Kano et d'autres vont partager les autres arrondissements.
Le Mohamed Sunusi, il faut le rappeler, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale. C'est un intellectuel musulman qui a aussi des positions très claires sur la polygamie et le nombre des enfants.
De temps en temps où Mohamed Sunusi parle, le gouvernement de Kano n'a jamais été avec lui. Donc, si vous vous rappelez même le temps qu'il a parlé de la polygamie, le temps qu'il a parlé de la justice, le gouvernement de Kano a toujours eu des problèmes avec lui. C'est même pas pour la première fois. L'année passée, le gouvernement de Kano a voulu même l'enlever en créant des allégations sur lui du corruption. Donc, de l'autre côté, ça n'a pas marché avec l'intervention, selon le gouvernement, avec l'intervention des leaders de Kano. Donc, maintenant, le gouvernement de Kano continue la guerre avec Mohamed Sunusi, parce que selon le gouverneur, Mohamed Sunusi n'a jamais respecté l'autorité locale de Kano.
Ça va aller vers où tout ça?
Il va nommer d'autres émirs le vendredi. Donc, comme déjà la constitution lui a permis maintenant de nommer 4 émirs plus Sunusi qui est le 5e déjà. Donc, il va nommer les 4 le vendredi. Il va les nommer parce que déjà l'Assemblée locale a passé la loi et puis lui-même il a signé la loi. Donc, déjà constitutionnellement, il a le droit. Il va nommer les 4 émirs.
Le gouverneur est soutenu par tous les musulmans conservateurs.
Oui, mais le gouverneur, lui, est soutenu par sa position. De l'autre côté aussi, d'autres soutiennent aussi Mohamed Sunusi. Il y a les marches pacifiques des jeunes, il y a des marches pacifiques dans la ville de Kano, ceux qui soutiennent Mohamed Sunusi.
Notre confrère Adam Aboubakar Gwarzo, joint à Kano au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Avec des températures avoisinant les 50 degrés à l'ombre, les musulmans de Gao, dans le nord du Mali, vivent le ramadan dans des conditions éprouvantes. Mais en bons musulmans pratiquants, ils se disent contraints de supporter la chaleur, le manque d'eau et d'électricité, et aussi la hausse des prix au marché. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les fidèles musulmans qui ont entamé leur carême, certains déjà le dimanche 5 mai dernier, d'autres le lundi, vivent dans des conditions pénibles. À ces fortes températures qui vacillent entre 47 à 50 degrés à l'ombre, s'ajoutent les coupures d'électricité et le manque criard d'eau à certains endroits, comme le témoignent les personnes interrogées dans la ville de Gao.
Moi d'abord, je suis dans un quartier qu'on appelle Alejandra Banja, un quartier très 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 difficile. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Et nous, ça nous fait près d'un mois que les robinets ne coulent pas. Il faut faire de la gymnastique tous les jours avec des bidons, des seaux d'eau. Les femmes, les enfants, tout le monde, il faut courir par-ci, par-là, boire un petit seau d'eau, rien que pour préparer la brèche.
Le mois de Ramadan, nous le recevons comme ce sont les règles de Dieu. Nous sommes obligés de supporter. Sinon, vraiment, c'est avec très grande souffrance parce qu'il fait très chaud à Gao. Et le malheur encore, avec les coupures de courant, le manque d'eau, qui vraiment, ça nous préoccupe sérieusement. La pomme de terre de 500 francs, c'est revenu à 600. Le poisson qu'on croyait que ça allait mieux, c'est la même chose. Et c'est tous les produits. Généralement, à Gao, ça a toujours été comme ça. On attend jusqu'au mois de carême pour augmenter, pour avoir le million. Alors que ce mois, c'est pas pour cela.
Le mois de carême, c'est un mois béni par Allah le Tout-Puissant. Et tous les musulmans qui sont en parfaite santé doivent le faire, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Donc les gens vivent dans des conditions très très difficiles, à savoir la chaleur. Là où nous sommes présentement, nous sommes à 47 degrés Celsius. Bien vrai que nous sommes en train de chercher des choses pour qu'on puisse trouver l'au-delà. Vraiment, c'est pas du tout facile. Les gens sont dans les mosquées et il y a coupure d'électricité, donc on parvient même pas véhiculer le message d'Allah comme il le faut. Donc tout ça, c'est des problèmes auxquels les musulmans sont confrontés ici à Gao.
On remercie les Bondi. On a commencé le mois de Kerem, mais on a commencé ça avec le plus difficile vraiment parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Donc maintenant, nous, on a que le flot seulement face toute la journée au flot, mais on est obligé parce que nous sommes des musulmans. Donc on va tout confiance au Bondi, Inch'Allah. Ça va aller.
Le mois béni de Ramadan où les fidèles musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil est une occasion pour les musulmans de Gao de prier en faveur de la paix et de la sécurité au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Ici aux États-Unis, et selon le New York Times, le président Donald Trump a déclaré au Service national des impôts des pertes de 1,2 milliard de dollars et n'a pas payé d'impôts sur le revenu sur plusieurs années. Les démocrates réclament depuis des mois les déclarations de revenus de M. Trump. Sur le front judiciaire également, aucun répit depuis la publication du rapport Mueller. Le point avec Lionel Gahima.
Le New York Times rapporte qu'entre 1985 et 1994, les entreprises de Trump ont perdu 1,2 milliard de dollars, plus que tout autre contribuable américain. Cela lui a évité de payer d'impôts pendant au moins 8 ans. Rudy Merbani du Centre Brennan pour la justice.
Peut-être que ses fiches d'impôts pourraient montrer qu'il n'est pas aussi riche qu'il le prétend, ce qui contredirait l'un de ses principaux arguments lorsqu'il battait campagne pour la présidence.
Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations d'impôts de Trump pour voir s'il y a conflit d'intérêts dans ses relations avec les entreprises étrangères ou s'il a triché. Monsieur Trump a toujours refusé.
Ils veulent connaître chaque transaction que j'ai menée. Maintenant, je suppose que Mueller, pour 35 millions de dollars, a vérifié mes impôts et mes finances qui, soit dit en passant, sont excellents.
Mercredi, une autre bataille s'est ouverte. Les démocrates de la Chambre cherchent à condamner William Barr, le ministre de la Justice. Il a refusé de fournir le rapport non expurgé du procureur spécial sur une prétendue ingérence de la Russie dans l'élection de 2016 et une possible entrave à la justice de la part du président américain. Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Nous y sommes maintenant. Nous sommes en pleine crise constitutionnelle.
Pour des démocrates, le président peut dissimuler certaines informations sensibles au public. Tout cela peut conduire à une nouvelle bataille juridique prolongée. Todd Belt de l'université George Washington.
Chaque fois que nous arrivons à de pareilles situations, la confiance au gouvernement baisse. Et les gens voient que le gouvernement se bat en son sein. Au lieu de servir la population, alors que nous nous dirigeons vers une élection présidentielle.
Les refus de Trump de se conformer aux assignations à comparaître du Congrès ont multiplié les appels à la destitution. Mardi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a même accusé le président de pousser les démocrates à entamer une procédure de destitution afin de consolider sa base.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nachwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.